commencer, j'ai tenu à inviter Gérard Klein parce que Gérard Klein, à mon avis, c'est quand même la référence incontournable de la science-fiction française. C'est un critique, évidemment, c'est un grand écrivain, c'est un grand témoin aussi de cette période. C'est quelqu'un qui connaît la science-fiction, la science-fiction internationale, bien sûr, sous toutes ses formes, mais aussi quand même spécifiquement la science-fiction française. Bon, je vais quand même présenter Gérard. Hein, voilà. Donc, oui.
Merci.
Voilà, c'est bon. Alors, Gérard est un écrivain, économiste, éditeur, né en 1937. Après donc une première carrière d'économiste dans le groupe de la Caisse des dépôts, entre 1963 et 1987, il choisit d'entrer dans l'édition comme conseiller de Robert Laffont, renouant avec une précoce vocation d'écrivain. Il a créé et dirige toujours aux éditions Robert Laffont la collection Ailleurs et Demain et au livre de poche, la série spécialisée dans le même domaine. Il avait déjà co-dirigé au livre de poche la grande anthologie de la science-fiction qui fit date. Il a publié une quinzaine de livres, romans, recueils de nouvelles, essais et un grand nombre d'articles, pour la plupart consacrés à l'avenir sous toutes ses formes, prévisions, prospectives, science-fiction. Entre autres au livre de poche, La loi du talion, Histoire comme si, Les seigneurs de la guerre, Le rêve des forêts, Les voiliers du soleil ou encore Le long voyage. Certaines de ses œuvres ont été traduites en anglais, allemand, espagnol, italien, russe et roumain. Et son plus grand titre de gloire, ça c'est Gérard qui me l'a appris, est d'avoir fourni en 1992 un sujet du bac sur le thème science-fiction et prospective. Donc, je laisse la parole à Gérard pour une conférence introductive, la science-fiction française des années 1950, rupture ou hybridation.
Un premier point, est-ce que je peux avoir un peu de lumière? Parce que là, j'ai du mal à lire mes notes.
Merci.
Ça suffira. Alors, je remercie Natacha de m'avoir proposé ce sujet hautement polémique, car, à mon point de vue, un mythe imprègne certaines recherches plus ou moins récentes concernant la science-fiction française de l'après-Seconde Guerre mondiale, le mythe de la rupture, ou de l'apparition inattendue d'un genre venu d'Amérique, la science-fiction, ou sous une forme plus posée, plus modeste, comme le proposait Natacha, on parle d'hybridation. Ce mythe, on le retrouve de façon plus ou moins affirmée dans quelques thèses récentes, celle d'Anita Torres, au jury de laquelle j'ai présidé, et puis celle de Simon Briand, qui est, je crois, dans la salle, ce qui vient seul point de désaccord avec lui. On le retrouve aussi dans nombre d'articles et de déclarations. Je crois que c'est les auteurs qui exploitent ce mythe attachent beaucoup trop d'importance à leur propre découverte du domaine et aux canaux de leur découverte, collections et revues qui sont apparues après 1950. Ce mythe, à mon sentiment, et d'après mes lectures des travaux, ne repose sur rien, sinon sur des légendes, comme je vais m'efforcer de le montrer en trois points. Bien entendu, la guerre mondiale a introduit une interruption dans les échanges culturels entre la France et le monde anglo-saxon, et en particulier avec les États-Unis, ce qui n'a pas été le cas pour la Grande-Bretagne. Et cette rupture n'a pas seulement duré 6 ans de guerre, de 1939 à 1945, mais bien 10 ou 12 ans, de 1939 à 1950 au moins, si la France de l'après-guerre n'est pas détruite, sauf à l'ouest, enfin en Normandie, elle est pauvre et elle est rurale. Mais on n'est pas du tout avec la science-fiction, dans le cas par exemple du jazz, qui, s'il était bien connu ici avant-guerre, est certes une invention américaine liée à l'histoire propre des États-Unis d'Amérique. Alors mon premier point sera la continuité de l'anticipation à la française, l'ancien merveilleux scientifique devenu ultérieurement science-fiction. Le problème, c'est que la plupart des chercheurs, fort érudits sur d'autres champs, connaissent peu, voire pas du tout, l'histoire en France du domaine avant la Seconde Guerre mondiale, domaine qui a été, pour dire le moins, très peu exploré par des universitaires, à la seule exception, déjà ancienne, de Jean-Jacques Bridan et de sa thèse et de son livre « La littérature française d'imagination scientifique » qui date de 1950 et qui est quand même assez limité. En revanche, connaissent bien cette période et la littérature antérieure, ou du moins assez bien, ceux qui ont vécu cette continuité, le contraire de discontinuité, ceux qui ont vécu ça comme moi, qui sont de moins en moins nombreux, ou bien des érudits intervenus plus tard, des érudits amateurs, je dirais laïcs, par opposition aux universitaires, comme Joseph Alterac, Guy Gosse, enfin, et bon nombre d'autres. Pourtant, sur ces formes antérieures de la littérature de science-fiction française, il faut même dire expression française, parce qu'il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Québécois. Pourtant, des travaux solides d'amateurs érudits existent, ceux de Pierre Versin, ceux de Jacques Van Herpe, et plus récemment, beaucoup plus récemment dans Van Herpe, Pierre Stolz a multiplié les études, sans oublier des fonds documentaires où on peut, sur Internet, où on peut récupérer des tas de choses, comme Noosphère et puis le site de 42. Mais une histoire complète du genre nous manque, et il est assez singulier que ce soit un amateur et chercheur britannique, Brian Stapleford, qui explore les magazines du début du XXe siècle grâce à Google, et il découvre des nouvelles et romans qui préfigurent les pulps américains. En fait, il y a un immense champ qui n'est pas défriché, mais qui pourra probablement l'être grâce à l'électronique, c'est justement celui de toutes ces publications en magazine. Presque personne, à l'heure actuelle, n'a lu, en faisant cette recherche, dans cette intention, les très nombreuses revues qui sont parues entre, disons, pour faire large, 1850 et 1950. Donc, l'histoire de ce domaine, au sens large, disons de la science-fiction française, au 19e et au 20e siècle, reste à écrire. Serge Lehmann en avait le projet, pour des raisons complexes et éditoriales, il est pour l'instant un peu remis à l'écart. J'espère, je pose de toutes mes forces dans ce sens, qu'il renaîtra. Alors, je ne peux évidemment pas esquisser cette histoire ici, ça fait l'objet d'un cours que je donne régulièrement à l'université de 30 heures, qui fait au moins 60 heures. Enfin, je voudrais souligner quelques points. D'abord, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. D'abord, il n'y a jamais eu de rupture. Tout le monde connaît plus ou moins l'œuvre de Barjavel, de René Barjavel, pendant et après la guerre, et il a paru nombre de romans entre 1945 et 1950. J'en citerai un parce qu'il a été réédité, qu'il est connu et qui est de bonne qualité, c'est « Et la planète sauta » de B.R. Bruce, qui est devenu une figure importante du fleuve noir en anticipation par la suite, qui est paru aux éditions de Portulan en 1946. Je n'ai pas pu faire de recherche très approfondie, mais enfin d'après Noosphère, en l'année 1946, il est paru plus de 100 titres dans notre domaine. Plus de 50 en 1947, environ 40 en 48, environ 50 en 49, davantage en 1950 et encore plus en 1951. Alors, ces chiffres qui sont très approximatifs, je n'ai pas compté les lignes, mais enfin, c'est à 10% très exact. Il faut les relativiser parce qu'ils contiennent des rééditions, ils contiennent des ouvrages marginaux, j'ai pas tout lu et je crois que personne n'a tout lu, mais la continuité est assurée jusqu'à l'apparition de collections spécialisées comme le Rayon Fantastique et le Fleuve Noir. J'ai moi-même dans ma bibliothèque, je pense que dans le fonds documentaire de 42, on doit trouver plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'ouvrages qui sont donc parus pendant la guerre et entre 1945 et 1950. Pendant cette période, d'ailleurs, sont apparus, avant ce qu'on pourrait appeler la grande vague de la science-fiction, des collections éphémères. En 1949, Le Sillage, les éditions Le Sillage, publie une collection qui s'appelle Les Horizons Fantastiques, qui publie 4 titres, dont l'un des plus intéressants est L'Univers Vagabond de Léon Groc, auteur déjà bien installé à la fois dans le policier et la science-fiction, et Jacqueline Zorn, qui était sa compagne ou son épouse, qui sort en 1950. Ce n'est pas le premier de la collection. Les éditions Stock publient en 1950, lancent une collection qui s'appelle modestement Science-fiction, le roman des temps futurs, et qui publie un seul titre, mais un titre qui a fait date, Les humanoïdes de Jack Williamson en 1949. Les éditions Jean Froissart, c'est un peu plus tard, publient une collection temps futur, où Béa Bruce publie un livre probablement bien antérieur, Apparition des surhommes. Là, à ce moment-là, on est rentré déjà dans le temps des collections et des revues dont je vais dire un mot. Un second point de cette continuité, c'est que les lecteurs, ce qui est très sous-estimé dans les travaux auxquels j'ai fait allusion, les lecteurs et les auteurs des années 1950 connaissaient bien la littérature d'anticipation, d'expression française antérieure. Je pense à Philippe Curval, je pense à Westerberg, je pense à moi-même qui a parcouru les marchés de la banlieue Est où j'habitais pour trouver ce qui n'était pas très difficile, tout ce qui avait pu paraître dans le domaine auparavant. À la librairie de la Balance, qui était tenue par Valérie Schmitt à partir de, je pense, 1952 ou 1953, et où j'ai fait intrusion probablement au début de l'année 1954, un rayon important était tenu par des occasions qui lui étaient ramenées par des bouquinistes, et Philippe Curval d'ailleurs, qui connaissait bien le milieu, en a récupéré des tas. Et je me suis assez souvent fourni en vieille science-fiction française auprès de Valérie. Alors, dans les œuvres mêmes publiées dans les collections qui sont considérées comme fondatrices, la continuité est manifeste. Si on regarde, par exemple, Présence du futur, qui commence à apparaître en 1954 et qui cessera en 2000, il suffit de regarder la liste des premiers auteurs français ou francophones, dont Jacques Sternberg, Jean-Louis Bouquet, Polak, Rony Aîné, un ancien qui a été récupéré, Barjavel, dont on réédite un roman, Marianne Andreau, etc. Et Andrevon, lui-même, s'établit dans une tradition qui est beaucoup plus proche de celle de la science-fiction française antérieure et immédiatement postérieure à la guerre, mais dans une traduction, disons, inspirée de l'américaine. Donc on regardait une collection qui a été éphémère, mais qui a joué son rôle, puisqu'elle publiait à peu près exclusivement des Français, la collection Métal, parmi les auteurs qui y publiaient, Nathalie Henneberg, Yves Dermez, Pierre Versin, enfin il y en a d'autres, et qui s'inscrivent vraiment résolument dans une tradition franco-française. Au fleuve voire même, Bessières reprend purement et simplement le thème de romans parus avant la guerre, je ne peux évidemment pas insister ici. André Ruelland et Jens Kortsteiner s'inscrivent aussi dans cette tradition. Et Jimmy Gueux, si on retire, les ovnis, il reproduit des thèmes qui ont été largement abordés par Jean de Lahire, enfin oui, Jean comme ça, Jean-Gaston Vandel, belge ou à demi-belge, pour sa part, fait la même chose. Donc, sur le premier point, la continuité littéraire, avec évidemment les hauts et les bas, enfin les différences qui peuvent exister entre les écrivains, je ne dirais pas les écoles, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler d'école à ce moment-là, la continuité littéraire a été assurée, même pendant la guerre, sans véritable trou. Je n'ai pas parlé des collections populaires, Talendier, Ferenczi, et qui ont contribué à maintenir cette tradition, et qui font en quelque sorte le lien non pas exactement avec les pulps américains, mais en parallèle avec les pulps américains, la plupart du temps ce sont les mêmes histoires, puis avec ce qui va devenir après la rare anticipation que vous connaissez tous. Un deuxième point, c'est est-ce que les Français connaissaient quelque chose ou connaissaient la science-fiction américaine de l'avant-guerre ? Alors je peux, c'est bien assez difficile à chiffrer, mais enfin je peux citer trois exemples de trois personnes qui ne se connaissaient pas du tout et qui la connaissaient bien. Le premier, c'est Régis Messac, qui en a laissé de nombreux témoignages, et qui a entrepris, à une époque malheureusement pas très bien choisie, vu les événements environnants, de créer une collection de science-fiction, Les Hypermondes, où il choisit de traduire, d'une part, et de publier, d'autre part, des auteurs français, et en particulier, d'ailleurs, un certain Régis Messac. Je ne pense pas que Régis Messac ait jamais connu Jacques Bergier, qui était beaucoup plus jeune que lui, qui a survécu, lui, à la Seconde Guerre mondiale et à la déportation. J'ai très bien connu Jacques Bergier. Bergier avait accumulé avant-guerre une collection importante de pulps américains. Les nazis ne lui en ont pas laissé grand-chose. Enfin, il m'a donné, par exemple, peut-être plusieurs dizaines de pulps s'échelonnant entre les années 1930 et les années 1950. Donc Bergier connaissait bien cette littérature et semble bien avoir écrit à un certain nombre de ces pulps, dont Ward Thames. Puis il y a un troisième point qui est beaucoup plus curieux. Il y avait un banquier, le banquier Hirsch, qui quand il était jeune avait été abonné, en tout cas s'était procuré à peu près tous les premiers pulps, et il avait constitué une collection en particulier d'Amazing Stories qu'il avait fait très soigneusement relier. Il avait les moyens, et un beau jour on m'a demandé d'aller expertiser cette collection à la bibliothèque en général du banquier Hirsch. Il était mort et sa veuve savait pas très bien quoi faire de tout ça. Alors, pour le reste, je n'étais pas vraiment compétent, j'ai orienté vers des livres que je connaissais. Mais pour la science-fiction, je lui ai proposé toute ma fortune de l'époque en échange de cette collection, si bien que j'ai relié tout, plusieurs des premières années d'Amazing Stories, de Freeling Hunter Stories, après d'autres revues du même genre, et qu'en prime, j'ai reçu les ouvrages de Camille Flammarion, dont certains avec des envois, et même je prends une lettre, parce que Hirsch avait été en relation avec Flammarion. Pour la toute petite histoire, le banquier Hirsch avait un bel appartement dans l'île Saint-Louis, juste au-dessus de celui de M. Pompidou, qui était encore vivant quand cette transaction a eu lieu. Alors, il n'y avait pas que ces trois personnages qui connaissaient un peu la science-fiction américaine. Edgar Rice Burroughs est publié dans Robinson dès 1937 avec les bandes dessinées américaines, dans le magazine pour jeunes, pour adolescents Robinson. Alors, il y a eu Le Conquérant de la planète Mars qui remontait à 1912, ce n'était pas du tout frais. Pellucidar qui datait à 1914. Enfin, il y a eu des traductions. Je voudrais insister aussi sur le fait que le terme de science-fiction n'introduit rien de vraiment nouveau dans les années 1950, ou alors le hot-dog que j'ai beaucoup consommé dans ces années-là à la gare de l'Est n'est pas un nouveau nom pour la saucisse de Francfort, mais une réalité entièrement originale. Il y avait un goût qui n'a peut-être pas disparu des Français d'alors, pour l'innovation ou la pseudo-innovation à l'américaine. Je peux vous citer un cas très insolite, et vous verrez après pourquoi je cite ce cas-là. France Dimanche, en 49 ou 50, au moment où ils ont publié les grandes pages sur la science-fiction, parmi les premiers, France Dimanche consacre une grande page au petting. Alors qu'est-ce que c'est que le petting ? Le petting, c'est un flirt poussé avec un touchement localisé, dirons-nous. Je ne pense pas que les Français aient réellement attendu France Dimanche et l'introduction du petting pour se livrer à des explorations. Il y a eu dans le même esprit les faux polars américains, les bouquins de Maurice Vian, ou encore si on poussait la chose un peu plus loin, on pourrait se dire que le roman historique a été introduit en France après le succès d'Autant n'importe le vent, dont le nom d'auteur que je connais, je l'ai passé au bout de la langue, enfin, ou bien le succès d'Ambre de Kathleen Windsor. Ça n'a pas grand sens, hein, c'est un peu la même chose. Ce qui s'est passé, que j'ai vécu, parce que j'en ai bien connu la quasi-totalité des acteurs, c'est qu'un petit groupe d'amateurs, parmi lesquels il y avait France Roche pour France Dimanche et d'autres journaux, le cinéaste Pierre Caste, Stéphane Spriel alias Michel Bulotin, Boris Vian et Jacques Bergier, accréditent l'idée d'une nouveauté, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas tout à fait une, mais ça les met en valeur. On est au début des années 1950, ils annoncent la société française qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est pauvre et rurale, quelque chose entièrement nouveau et dont ils sont les porteurs. Alors, au-delà donc du fait que les Français, certains Français au moins, ne connaissaient pas si mal la science-fiction américaine, il y a un troisième point qui sont d'étonnantes coïncidences, coïncidences qui sont généralement oubliées, enfin ou ignorées tout simplement, de ceux qui soutiennent l'idée de la rupture. D'abord, les histoires des pulps, disons entre 1926, des pulps spécialisés, on pourrait remonter beaucoup plus haut parce qu'il y a énormément d'histoires de science-fiction qui sont parues dans des pulps non spécialisés, enfin, à partir du moment où c'est spécialisé, c'est plus simple, entre 1926 et 1950, ces histoires ressemblent étonnamment à celles qui sont publiées en France, sans d'ailleurs qu'il y ait de lien direct, sont publiées en France à l'époque. La plupart de ces histoires sont des anticipations dans le présent. Dans un regard, un savant plus ou moins sain d'esprit fabrique un truc extraordinaire, robot, astronef, enfin, etc. Et ça s'amuse avec. C'est une première coïncidence qui est frappante quand on a lu Outre les pulps, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans la collection du Grandier Hirsch notamment, pas mal de Talandier, Ferenczi, enfin tous les bouquins dont je parlais tout à l'heure. D'autre part, les revues, on a l'impression que quelque chose surgit en France, comme ça, brusquement, du néant, alors que ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. Ce n'est pas le cas, parce que les revues intellectuelles de science-fiction américaine apparaissent toutes à la fin des années 1940 ou au début des années 1950, et à très peu d'années près, comme en France. Galaxy, le Galaxy américain, apparaît en octobre 1950. C'est d'ailleurs une revue d'origine italienne. Elle est créée aux États-Unis par un groupe italien qui essaye de se trouver un créneau. Le Galaxy français apparaît en novembre 1953, probablement d'ailleurs dans sa première version via le même groupe italien. Enfin, ça s'est creusé. Ce magazine Fantasy and Science Fiction apparaît en 1949, à fin de l'année 40. Fiction apparaît en octobre 1953. La seule revue française qui ne durera pas, d'ailleurs, c'est Satellite, enfin, purement française, dans le sens qu'elle n'est pas plus ou moins l'édition d'une revue américaine. C'est Satellite, qui sort en 1958 et paraîtra jusqu'en 1963, un long déclin. La seule exception qu'on puisse relever, c'est celle d'Astounding Science Fiction, qui a commencé en 1930, mais qui n'est pas vraiment adapté par son contenu au public français, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus de ça, jusqu'à l'arrivée de John Campbell, qui arrive en 1937, mais dont la patte n'apparaît véritablement qu'à partir de 1939, c'est une revue qui ne se distingue pas du tout des autres pulps. Une autre coïncidence ou ressemblance étonnante, c'est qu'il n'y a pas aux États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale, de collections, et il y a très peu de livres spécialisés. Les collections apparaissent comme en France dans les années 1950, et les grands éditeurs littéraires ne s'y aventure pas avant les années 1960 et même beaucoup plus tard. Parmi les collections qui sont apparues dans les années 1950, qui sont essentiellement des collections de poche, enfin, je pourrais citer une bonne douzaine, mais je citerai principalement S. Double Novels, parce qu'ils sont une collection qui est devenue célèbre, et puis Ballantine, qui est une collection plus intellectuelle, beaucoup plus intellectuelle, et qui a en particulier des couvertures d'une grande qualité, inspirées de l'art abstrait ou de l'art surréaliste, et qui paraît à partir de 1953. Alors, tout ça paraît bien dans le cadre de Philippe K. Dick, et en particulier dans le livre « Invasion divine » de Laurent Sittin, enfin une sorte de biographie, parce que Dick a des difficultés à publier dans les livres, simplement parce que les grands éditeurs publient sous forme de livres, parce que les grands éditeurs ne veulent pas en faire, et les autres, c'est des collections de poche où il va publier, notamment avec l'appui de Donald Wallheim, que j'ai bien connu dans les S. Double Novel, et c'est payé avec un lance-pierre. Le point important, c'est que dans les années 1950, au début des années 1950, il y a ce passage des revues, et par conséquent de la prédominance des nouvelles, des textes courts, à l'édition du livre, et par conséquent au roman. Et ce passage est vécu comme tellement douloureux que les revues sont en déclin. Les livres commencent à prendre leur essor, et ce passage est tellement douloureux qu'il y a eu de nombreux articles, je crois qu'il y a un livre, sur la crise de la science-fiction américaine. Il semble que c'était fini, quoi. Si les revues disparaissaient, le genre était terminé. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Et le premier livre qui a eu un certain retentissement aux États-Unis, ça a été le Pocket Book of Science Fiction, une anthologie de Donald Wallheim, qui est parue en 1943. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Alors, cette confrontation pose un certain nombre de questions que j'ai entendues souvent et auxquelles je vais essayer de répondre. La première, c'est mais s'il y avait une science-fiction américaine avant-guerre, pourquoi si peu de livres ont été traduits ? La raison, c'est qu'il y a très peu, il n'y a pas de collection, mais il y a très peu de livres américains aux États-Unis à cette époque-là. Il y a des revues, et ces revues ne font l'objet de la première anthologie, celle que je citais, celle de Wallheim chez Pocket Book, en 1943. Donc, il n'y a pas de... Les textes qui paraissent, il y en a, comme celui de Keller qui a publié Régis Messac, mais ils sont épars. Pourquoi est-ce que les pulps, c'est une question qu'on m'a souvent posée, là, conscient que les pulps constituent un continent obscur, un continent noir en quelque sorte, pourquoi est-ce que les pulps n'ont pas été traduits? Ils n'ont pas été traduits pour une multitude de raisons, hein, parce que d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'individuellement des nouvelles n'aient pas été publiées, mais en tout cas personne ne s'en souciait, même si on ne les ignorait pas tout à fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on avait tout à fait ce qu'il fallait en France. Opposer, c'est ce que les Américains nous opposent aujourd'hui, on a ce qu'il nous faut. Il y avait Kress, beaucoup un peu plus tôt, Talandier, Ferenczi, qui encore dans les jusqu'en 1900, au milieu des années 50, publiait un nombre invraisemblable de textes, dont environ 10% d'après un travail récent, relevé purement et simplement de la science-fiction. C'était des collections de romans d'aventure, et dans ces romans, il y avait de façon régulière des romans de science-fiction. D'autre part, ces pulps, avant le travail de Campbell dans Astounding Science Fiction, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, les textes de ces pulps, j'en ai lu beaucoup, c'est vraiment de très mauvaise qualité. Il y a quelques exceptions. Je pense à Stanley Weinbaum, par exemple, qui n'est pas un grand écrivain, mais qui a des idées absolument fabuleuse et qui est mort beaucoup trop jeune. Campbell a introduit dans les pulps à travers Standing, quand on lui a confié cette revue, une double révolution. Il demande une certaine qualité d'écriture et il insiste sur la nécessité de produire, de créer des personnages humains, des personnages crédibles. Mais ça se passe juste avant la guerre, puisqu'il est nommé rédacteur en chef en 1937, mais son style n'apparaît qu'à partir de juillet 1939, parce qu'il y avait le stock des nouvelles accumulées auparavant, etc. En juillet 1939, les Européens, les Français en particulier, ont eu bizarrement d'autres soucis. Alors, une autre question qui est souvent soulevée, c'est celle de la saga interstellaire, comme quoi les Américains ont inventé le voyage interstellaire, les empires interstellaires, et on l'aurait découvert, ça aurait été une grande secousse. En fait, c'est une innovation qui est d'abord douteuse, et qui est surtout très rare quand on fait une recherche, en particulier en utilisant l'encyclopédia Science Fiction de John Clute, je vous recommande, qui est maintenant accessible sur Internet et qui est extraordinairement riche. Bon, on a quoi? On a Van Vogt, qui est d'ailleurs à ce moment-là un auteur canadien. Il va s'installer peu longtemps après la guerre aux États-Unis. Alors, il introduit avec les histoires de l'Empire de Lynn dès 1942, j'ai bien compris, mais surtout après 1946. Il y a Asimov, avec les fondations de 1942, donc on pourrait presque dire que c'est la culture européenne d'Asimov qui ressort. Une exception, ce sont le Skylark of Death de E.E. Locksmith, qui aurait été écrit entre 1915 et 1921, et qui n'est publié qu'en 1946. Ce même Smith publie dans Astounding en 1938 Galactic Patrol. Alors, on peut faire remarquer qu'en France, sans aucun souci de prééminence, les aventures d'un savant russe datent de 1889 et conduisent ce savant russe et ses passagers à travers les étoiles. Alors, certes, c'est pas tout à fait dans les étoiles, c'est dans un coma partagé. Enfin, ça fait un livre entier quand même, qui est d'ailleurs très difficile à trouver, et que je me félicite de posséder. Et d'après l'encyclopédie de Clute, il y a surtout un Britannique, Robert Cole, 1869-1937, qui publie la première histoire d'Empire Galactique, et l'Empire Britannique, évidemment, dans un roman qui s'appelle The Struggle for Empire, A Story of the Year, 2236. Ça, c'est plus facile pour moi. Ce que je vais faire ressortir dans tout ça, c'est que même en faisant une recherche assez poussée, aux États-Unis, la saga interstellaire, c'est un thème tardif de l'après-guerre qui va surtout exploser après 1950, comme en France. Et par exemple, pour prendre un détail, les vaisseaux à génération qui permettent de contourner l'interdit relativiste dépassé à la vitesse de la lumière, L'univers vagabond de Léon Groc et Jacqueline Zorn, paru dans la collection que j'ai citée, sort en 1950, et on ne trouve que deux ou trois textes qui le précèdent. Proxima Centauri de Murray Leinster, qui date de 1935, The Living Galaxy de Lawrence Manning, qui date dans Wonder Stories de 1934, Robert Heinlein Universe de mai 1941, qui est paru dans Astounding. Mais la quasi-totalité des exploitations de ce thème, notamment par le Britannique Brian Aldiss, sont très postérieures. Ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a vraiment de fortes coïncidences, et surtout une espèce de convergence. C'est à peu près en même temps, que les mêmes, à quelques années près, que la guerre explique en partie, que les mêmes thèmes sont abordés par les auteurs. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai été confronté aux travaux très fort savants dont je parlais, et aussi un certain nombre d'articles et de déclarations, c'est à quoi sert ce mythe étrange de la rupture, de l'innovation presque intrusive de la science-fiction américaine dans le genre en Europe et particulièrement en France. Il a été, j'en ai été le témoin, dans l'après-guerre, c'est un thème qui a été fortement, ce mythe qui a été fortement soutenu par certains intellectuels communistes qui ont publié dans la Pensée toute une série d'articles décrivant la science-fiction américaine comme manifestation de l'impérialisme américain, littéralement comme une invasion étrangère, enfin, qu'il fallait absolument repousser. quand on regarde le détail, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, c'est comme ça qu'il en fait. Et aujourd'hui, connaissant les auteurs de cette thèse et un certain nombre de déclarations et d'articles, je ne crois pas du tout que ce soit de cette école qu'ils se réclament. Je pense qu'il y a chez eux, là ça mérite réflexion, un souci un peu excessif de poser, de définir et de dater des origines. Le psychanalyste que je suis en partie sait très bien que la plupart des gens sont soucieux des origines, de fonder, fixer quelque chose quelque part. J'ai l'impression que là, on en a une manifestation un peu exagérée. Au total, pour moi, ce qui se produit en France pendant les années 1950 et après, ce sont des retrouvailles, hein, ni rupture, ni même hybridation, ce sont des retrouvailles. La science-fiction anglo-saxonne, et pas seulement américaine, va revivifier, certainement rénover la science-fiction française, mais les unes et les autres françaises, britanniques, américaines, puisque ce sont quand même les trois principaux courants, les unes et les autres vont poursuivre selon leur tradition propre. Il y a une longue tradition de la science-fiction française, et certains intervenants vont certainement y revenir, qui est une tradition assez pessimiste, et qui remonte pratiquement à la Restauration, en tout cas au moins au monde tel qu'il sera des nuits souvestres de 1843. Tradition assez pessimiste qui s'observe encore aujourd'hui, enfin tradition assez souvent anti-industriel, c'est le cas de Souvestre, ou anti-scientifique, c'est le cas d'Andrevon, par exemple. La tradition britannique est assez différente, et la tradition américaine aussi, même si toutes les trois, elles tressent un fil qui peut devenir une couronne.
Donc, merci à Gérard Klein d'abord d'avoir respecté le temps et puis de nous avoir donc donné cette conférence tout à fait éclairante sur cette notion, ce mythe justement de l'intrusion de la science-fiction américaine dans les années 1950 dans la science-fiction française. Donc, je vais laisser la place maintenant au modérateur de notre... oui. Alors, les questions, oui. Donc, les questions, en fait... Oui. Pour les questions, en fait, on va passer... donc deux intervenants encore, et ensuite il y aura donc une discussion avec une pause, d'accord ? Donc sur la conférence de Gérard, sur la communication de Hervé Lagoguet qui va nous parler de Jean-Pierre Andrevon tout de suite, et sur la communication de Alexandre Marcinkowski qui va nous parler du cyberpunk francophone. Voilà, donc je vais laisser ma place à Gérard Pellet et à Hervé, voilà, et nous ferons donc des questions après.